Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, on va parler de la place de l'écriture dans la guérison intérieure. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mérim Tahiri, bonjour.
Bonjour, je suis très heureuse d'être invitée et je vous remercie de me recevoir.
Mais c'est un plaisir, Lala Mérim, et c'est un espace de femmes. Et donc, comme on disait en off, toutes les femmes y ont leur place. Alors, Mérim Tahiri, vous avez sorti il y a quelques mois seulement votre premier roman, c'est bien ça ?
Oui, Le secret de l'arbre, qui est signé Mérim Bint Houria, en hommage à ma mère.
Okay.
Parce que c'est un livre justement qui parle un petit peu de la place de la femme dans la société, qui parle d'une femme marocaine, donc qui trace son chemin au Maroc. Et donc c'est un hommage aussi à ma mère. Voilà.
Alors, vous avez sorti ce livre donc en décembre 2025, donc
oui,
il y a quelques mois. Mais votre vie avant l'écriture, c'était quoi ?
Alors avant l'écriture, j'avais d'autres casquettes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, je continue à avoir les mêmes casquettes. J'ai juste rajouté une sorte de roue à mon carrosse qui est l'écriture. Mais je suis une mère marocaine et je travaille. Je travaille dans une banque.
D'accord. Donc rien à voir avec la littérature, en fait.
J'ai un parcours scientifique. J'ai fait une prépa HEC. Ensuite, j'ai intégré une école de commerce. J'ai eu mon diplôme d'expertise d'études supérieures comptables et financières. Et voilà, ensuite j'ai intégré l'audit, puis la banque.
Ok, alors ce besoin de...
Rapidement.
Oui, j'ai compris, j'ai compris. Mais alors, entre-temps, à travers toutes ces années d'études, carrière de maman aussi, etc., est-ce que l'écriture était déjà présente ? Ou c'est finalement...
Oui, moi, voilà, je suis une lectrice invétérée. C'est-à-dire qu'avant, je me contentais en fait d'absorber. Et ensuite, j'ai ressenti l'urgence d'écrire au moment où j'ai voulu un petit peu rendre de ce que j'avais reçu, mais aussi rendre aux femmes. Pourquoi ? Parce que justement, la situation et les anecdotes aussi de ma vie, mon chemin de vie, ont fait que j'ai eu quelques préjudices on va dire psycho-affectif dû à l'environnement dans lequel nous évoluons, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le milieu professionnel, même dans la sphère privée, dans la famille, etc. Moi, j'ai vécu qu'avec des frères. Et donc, ces blessures, ces fractures ont fait que, au début, j'ai ressenti beaucoup de colère. Et cette colère, j'ai dû un petit peu l'exprimer pour l'externaliser et pour justement ne pas tomber dans un cercle vicieux d'auto-apitoiement, aoula de sentiments d'injustice, aoula d'essayer un petit peu de transformer cette colère, de la transformer en quelque chose de constructif. Donc à travers l'écriture, de quelque chose de construit et de créatif surtout, parce que mon livre parle effectivement du processus de création du Seigneur, hein, de Dieu, et comment ce processus de création fait que l'homme se libère justement de peut guérir de ces traumatismes, on va dire.
Ok, alors j'ai envie de comprendre le lien entre le fait d'avoir grandi avec des garçons, des hommes, et la colère en fait qui était en vous.
En fait, c'est qu'il y a des pics. Il y a des pics en permanence de est-ce que tu peux aller nous faire le thé ou là tu peux débarrasser ou là des petites. Je raconte un petit peu au début du livre les anecdotes de vie qui font que des fois c'est sous forme de plaisanterie.
Oui,
souvent,
oui,
ils le font en rigolant, en plaisantant, et ça vous remet toujours à votre place de femme. Ça vous remet toujours à la place où vous devez être dans votre environnement soi-disant naturel. Et moi, en fait, dans mon chemin, j'ai toujours eu besoin de réfuter ces dictats, ce dogme de la femme doit être comme ça parce que son cerveau est fait comme ça. Et à travers mes lectures, à travers tout ça, je me rends compte qu'au niveau du hardware, c'est-à-dire du cerveau matériel, aujourd'hui, les études montrent qu'il n'y a absolument aucune différence en termes de fonctionnalité entre l'homme et la femme. Et donc, ce dictat qui est purement social, qui est purement lié à notre environnement, fait que, comme j'ai dit, les préjudices, lorsqu'il n'y a pas de réparation, se transforment en traumatisme, en blessure,
en colère.
Alors, si
je peux me permettre, Myriam, j'ai reçu une dame dans un autre podcast récemment et qui m'a raconté exactement la même chose. Et elle a mis, elle aussi, fille entourée de garçons. Et elle m'a, et en fait, elle a mis un mot sur ça. Elle m'a dit, j'appelle ça aujourd'hui du harcèlement. J'ai vécu du bullying de la part de mes frères.
Non, c'était pas vrai. Moi, je l'ai pas ressenti comme ça parce que encore une fois, le ressenti est différent selon les personnes. Ça peut être la même chose. On peut vivre les mêmes expériences, mais selon notre palette émotionnelle ou là notre manière de d'analyser la réalité que l'on vit, on peut vivre les choses un peu différemment. Alors moi, très sincèrement, j'ai ressenti l'interaction avec mes frères souvent comme un challenge, souvent comme il faut que je fasse ma place.
Oui. D'ailleurs, ça me rappelle trop. Elle aussi, exactement la même chose. Mais alors, il faut que je fasse ma place, il faut que je sois la meilleure, il faut que je sois la première à l'école. Il faut faire plus, il faut que j'existe en fait. Il faut que j'existe.
Oui. Et pas seulement, comme j'ai dit, dans la sphère privée. On peut avoir ce sentiment-là et c'est pour ça que j'ai voulu le partager à travers l'écriture. C'est parce que je suis sûre que tout le monde se reconnaît. Enfin, toutes les femmes marocaines, en tout cas, pourront, dans une anecdote ou dans une autre, retrouver... Bon, les histoires vont être légèrement différentes, mais les ressentis et les frustrations seront de la même nature. Parce que nous vivons tous les mêmes... dans une société qui stigmatise, qui met dans une case, qui te met dans une position où pour exister, en fait, il faut crier, se battre. Et c'est pour ça qu'on dit elle est hystérique ou quoi que ce soit. Souvent, c'est plus une réaction qu'une nature, en fait.
Alors, je voudrais quand même poser une question. Justement, ce ressenti, est-ce que vous l'avez emmené avec vous dans l'environnement professionnel avant de l'exorciser par l'écriture, avant de le libérer d'une manière ou d'une autre? Justement, cette dame aussi, elle a fait un long chemin et travaille sur elle. Et aujourd'hui, elle regarde son histoire d'une autre manière. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre histoire. Oui. Vous, à ce moment-là, c'est cette douleur, j'imagine que vous ne savez... Est-ce que vous étiez capable de nommer l'origine de la douleur déjà? La source de la douleur.
À quelle phase de ma vie, c'est-à-dire
20 ans, 25 ans, oui, et jeune femme, fraîchement diplômée, qui intègre l'environnement professionnel, qui sort des plus grandes écoles, qui fait prépa, etc. Est-ce que vous étiez capable de nommer, en fait, ce feu qui était à l'intérieur? Et en même temps, d'emmener avec vous cette envie de se prouver dans le milieu professionnel?
Alors oui, j'avais cette colère, je l'avais, je pouvais la nommer en tant que colère, mais je ne l'avais pas encore en tant que feu intérieur.
Ok, c'est différent.
Parce qu'au niveau, voilà, c'est très très différent. C'est-à-dire qu'au début, je sentais que je pouvais être agressive, même dans le milieu professionnel, même en famille. Je veux dire, c'était ma réaction. C'était pas quelque chose qui était dû à un milieu particulier. C'est-à-dire que cette réaction-là, je la traînais avec moi, que ce soit avec mes amis, que ce soit dans la rue, que ce soit avec mes enfants. Vous voyez, c'était une colère que je savais exister, mais qui ressortait comme colère, à l'état brut.
J'aimerais bien, en fait, en savoir un peu plus sur l'évolution, votre évolution à vous, ce qui vous a amené de la colère au feu.
Oui.
Comment s'est fait le processus?
Alors, le processus, c'est aide les blessures. Aide les blessures, les unes, j'allais dire, qui se sont accumulées, les unes à la suite des autres, qui se sont accumulées et qui ont créé qu'à un moment donné, il y a un choix à faire. Soit c'est la dépression et la fatigue et l'hypertension, parce qu'on est angoissé.
Mais parce que vous aviez commencé à ressentir ce que vous venez de nommer comme pathologie, comme trouble?
Non. Ah, alors, avant d'arriver là, je me suis sentie au bord de quelque chose. C'est comme le bord d'un gouffre, ou alors le bord, quand vous faites une entaille sur la peau, il y a la blessure. Alors, et vous êtes au bord de cette blessure. Et c'est à ce moment-là que, pour moi, c'est comme le bord d'un chaos. C'est comme à l'intérieur de vous, il n'y a plus rien que vous faites qui est bien. C'est que des mauvaises décisions. À partir de ce moment où la blessure est profonde, il y a un choix. Il y a une urgence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est
absolument.
Soit vous allez... aller donc chez le médecin et suivre une thérapie, soit vous allez vous prendre en main.
Oui.
Alors, j'ai cherché, j'ai commencé à lire. Alors, bien sûr, c'est à travers, moi je le fais parce que je suis musulmane et marocaine, je le fais aussi, vous allez voir que le livre, c'est des enseignements des trois religions.
J'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a sorti de ça? Qu'est-ce qui vous a aidé, en fait? Qu'est-ce qui vous a transformé
lecture,
en tant que...
Je vais dire la lecture, mais la lecture ciblée, la lecture qui cible la connaissance, pas juste lire un roman. C'est la lecture ciblée de beaucoup de gens qui parlent de comment est-ce qu'on fonctionne, de comment fonctionne l'être humain, et qui parlent de comment fonctionne l'être humain comme l'a expliqué Dieu. Parce que comme c'est lui qui nous a créés, je pense qu'il n'y a pas mieux que lui pour nous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne.
Mmh.
Et alors, donc, c'est cette connaissance-là qui fait qu'on peut, à mon avis, transcender ou donner naissance à autre chose, que ça se transforme en feu créateur. Voilà,
ok. Alors, quand je vous ai parlé tout à l'heure de mon autre femme, qui m'a parlé d'harcèlement, vous avez eu une réaction un peu, en fait, non, pas du tout, mais moi, c'est pas ce que j'ai ressenti. Comme si c'était une réaction exagéré de sa part, ou de nommer les choses de façon exagérée en les nommant.
Non, je ne pense pas que c'est exagéré. Je pense que tout ressenti est un ressenti qui est valide.
C'est ça. Mais en même temps, je finis juste mon constat. Mais en même temps, ce que le comportement de vos frères a induit en vous est extrêmement lourd, en fait. Cette colère était très importante. C'est quelque chose qui vous a suivi même dans votre vie de femme, même dans votre vie de mère, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, vous mettriez quel mot dessus?
Oh, moi, je dirais... on peut parler... Oui, je comprends le terme qu'elle a utilisé, mais c'était fait de manière tellement innocente, c'est tellement ancré, en fait, dans le vocabulaire de tous les jours, dans les blagues de tous les jours, que des fois, c'est même professionnellement, quand on s'énerve un petit peu, ils peuvent facilement vous dire est-ce que vous avez vos règles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tellement des blagues anodines qu'elles en deviennent banales. Alors, bien sûr, banales pour... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de faire du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Le harcèlement, pour moi, il y a quand même une volonté. C'est juste dans cette...
Je comprends,
nuance.
Je vois. Ouais.
Voilà, c'est juste dans cette nuance. C'est-à-dire que je comprends parfaitement le ressenti de la dame, parce que quelque part, c'est ça. Mais comme il n'y avait pas de volonté de faire du mal, ou là, de... vraiment de... de nuire, je vais dire que c'était vraiment dans la bonne blague. Mmh. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que c'est du harcèlement, c'était inconscient, c'était anodin, c'était naïf.
Oui.
Parce que c'était des enfants. Mmh. C'est pour ça que je ne parle pas de harcèlement. Ça aurait été
quelque chose. Oui.
Voilà. Là, on ne peut pas, adulte, dire je ne l'ai pas fait exprès. C'est difficile.
Oui.
D'autant plus que la personne parle de son ressenti. À un moment donné, avec votre famille ou avec votre supérieur hiérarchique ou là, vos collègues, vous allez dire « tu m'as dit ça, ça m'a blessé ». Donc, la récidive est toujours consciente.
Mm.
Mais mes frères, même aujourd'hui, nous avons des relations de solidarité, de soutien, d'amour. C'est pour ça que le harcèlement, non, je trouve que c'est pas fort, mais ça serait pas juste.
Je comprends. Ils sont au courant qu'ils ont en quelque sorte aussi donné naissance à ce livre, parce que...
Ah oui, ben ils l'ont lu, et d'ailleurs mon grand frère a fait un témoignage incroyable qui a fait beaucoup vendre le livre, en disant « j'ai pleuré, j'ai ri ». Et je trouve formidable qu'elle ait fait ce travail et qu'elle l'ait partagé pour que d'autres puissent trouver leur chemin.
Et vos enfants,
donc,
ils en pensent quoi ?
Pardon ?
Vos enfants, ils en pensent quoi ?
Alors, ma fille, comme mes nièces d'ailleurs, leur ressenti a été un petit peu plus dur parce qu'elles ne me voient pas enfant.
Oui.
Elles ne m'imaginent pas enfant. Elles disent, il y a du fait de ma position, on va dire, dans la famille, elle me voit comme une adulte, comme quelqu'un, vous voyez, et le fait qu'elle m'ait vue enfant, ça leur a fait bizarre. Elles m'ont dit, ça fait bizarre, tu vois, de voir que toi aussi tu as ressenti ça, que toi aussi tu pleures, que toi aussi ça te choque. Voilà. Mm. Et puis elles ont été émotionnellement très proche de mon ressenti, parce qu'elles me connaissent. Donc, elles ont retrouvé des choses et elles ont découvert des choses. Mmh. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui leur a parlé de manière beaucoup plus intime, je pense.
Alors, la signature, le nom de signature, le nom d'auteur, d'autrice.
Mérim
Ben Tchouria, exactement.
Oui.
Pourquoi, justement, pourquoi ne pas signer ? Vous l'avez dit au début, vous avez dit c'est pour rendre hommage aux femmes et à ma mère. Est-ce que c'est parce qu'elle s'appelle Huria et que ça vient de,
la liberté,
exactement.
Bravo d'avoir fait le rapprochement, c'était les deux. D'abord, Huria, c'est la liberté. Et pour moi, c'est symbolique. Vous voyez, je suis libre. Et justement, cette connaissance de soi, cette volonté d'exprimer dans le réel qui on est, c'est une liberté énorme de pouvoir enfin sortir du regard des autres, de enfin pouvoir dire rien que je suis. Voilà, je suis, j'existe. Et Dieu a soufflé en moi, comme il a soufflé en chacun d'entre nous, et son souffle est en moi. Et donc, je suis puissante, et donc je suis, et donc je suis libre. Je peux faire ce que je veux, même dans la société dans laquelle je suis libérée de ce regard-là. Ça, déjà, c'était effectivement très symbolique, le prénom de ma mère. Et la deuxième chose, c'est que je porte le nom de mon père tous les jours. J'en suis fière, je m'appelle Mérim Tahereh Jouté, je suis fière d'être qui je suis, de fille de mon père, que bon, on voit dans le livre un lien très fort qui m'a toujours liée à mon père Lerhmo, et son absence qui est restée comme un trou béant dans la poitrine, en a pour moi, tellement c'était un pilier, c'était quelqu'un de très important pour moi, donc je suis fière du nom que je porte. Mais je trouve que dans mon nom, il n'y a rien de ma mère, alors qu'elle aussi a contribué tout autant à mon éducation, à toute la logistique qui fait qu'aujourd'hui je suis qui je suis. Et donc voilà, c'était un petit peu pour rééquilibrer les choses.
Alors, quand on vit toutes ces choses-là en tant qu'enfant,
oui.
Et après on rend hommage à sa maman à travers un nom de signature, un nom d'artiste, comme on dit. Elle avait quel rôle, justement, dans cette dynamique qui se passait entre vous et vos frères?
Ah, maman a toujours... Bon, maman est une mère marocaine. Alors, maman... Elle, je vais le dire, hein, a toujours préféré mon grand frère, bon, mon frère, l'aîné. Okay. Voilà, donc il y a toujours la maman qui a un lien particulier avec le garçon et surtout quand c'est l'aîné. Mais je ne l'ai pas mal vécu parce que d'un autre côté, j'étais la seule fille et moi, j'avais mon père comme protecteur. Donc, il y avait une sorte d'équilibre où chacun trouvait une épaule sur laquelle pleurer, mes frères, ma mère et moi, mon père. Donc, dans ce sens-là, mais elle a été présente dans toutes mes études parce que c'était elle qui nous accompagnait au quotidien, physiquement et intellectuellement. Donc, elle revoyait nos cours, elle faisait nos fiches de lecture. Elle a été ma première également lectrice et critique littéraire parce qu'elle a noté au début mes brouillons hein, avant d'être mon livre. Et donc voilà, c'est l'accompagnatrice, mais c'est l'accompagnatrice discrète, c'est l'accompagnatrice un peu de l'ombre, et c'est pour ça que j'ai voulu un peu mettre de la lumière sur cette partie qui n'est pas inutile et qui est même fondatrice. Si je prends l'allégorie de l'arbre, ça serait les racines, ça serait celle qui nourrit, oui. Celle qui met dans l'ombre. Alors, en souterrain.
Oui. Alors ça, c'est le premier livre. Est-ce que là, on parle d'un début de carrière?
Oh, je l'espère bien. C'est-à-dire qu'après, comme vous le savez, le domaine de l'édition, il faut que le projet soit accepté, oui. Par un comité de lecture. Alors pour ma part, oui, donc j'écris, je continue d'écrire. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, qui est assez libérateur pour moi et qui permet au fur et à mesure d'écrire, d'apprendre. Parce que moi-même, je mets mes idées dans un cadre, je les structure et je continue de lire et d'apprendre.
En tout cas, merci beaucoup Myriam. Merci infiniment d'avoir été...
qui te remercie vraiment d'avoir accepté, comme j'ai dit, si gentiment et si simplement de m'intégrer dans cette sororité extraordinaire. Et j'aime beaucoup ce que tu fais.
Merci beaucoup, Myriam. Merci infiniment. Je suis touchée.
Merci beaucoup, Myriam. Merci pour ce que tu fais aussi pour les femmes. Et je te souhaite une très bonne continuation.
Également. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.